Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Et bonjour à tous, c'est Marine au micro de Cinérama. Alors cette semaine, et bien comme chaque semaine, on vous parlera actualité, cinéma, critique, débat, chronique. Bref, on vous parle du 7e art. Je suis avec Manu. Bonjour Manu.
Bonjour Marine.
De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Eh bien de la grosse sortie de la semaine dernière, X-Men Apocalypse.
Et l'apocalypse est en effet dans le film, comme tu vas nous le dire.
Oui, exactement, oui.
Et sinon, tu vas aussi nous parler d'un bon film.
Et peut-être, si on a le temps, d'un DVD qui s'appelle Contro Natura, un film italien d'Antonio Margheriti.
Alors Vincent, qui sera quand même avec nous de façon dématérialisée, eh bien, nous parlera de Men and Chicken, une farce danoise avec Mads Mikkelsen. Il nous parlera également de Money Monster, un film présent à Cannes et non des moindres, puisqu'il s'agit de la dernière réalisation de Jodie Foster qui réunit George Clooney et Julia Roberts. Et justement, eh bien, je vous parlerai de Cannes. On n'en a pas parlé pendant toute la durée du festival, mais mieux vaut tard que jamais. On vous parlera un petit peu voilà, de tout ce qui a émaillé Cannes pendant cette 69e édition. Et je vous parlerai également de Boulevard, le film posthume de Robin Williams, c'est Cinérama et on commence tout de suite avec X-Men.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Alors je vais commencer cette chronique que j'aurais tant souhaité ne pas écrire, merci Marine, par un petit coup de gueule à l'encontre des scénaristes hollywoodiens qui semblent n'avoir qu'un objectif, rendre abscons les scénarios les plus manichéens et débiles pour nous empêcher, nous pauvres chroniqueurs, de pouvoir résumer en 3 lignes leur grosse machinerie boursouflée. Alors pourquoi faire simple quand on peut donner l'illusion de profondeur et de complexité est devenu le mot d'ordre des films de super-héros de ces dernières années. Alors ce nouveau X-Men, le 3e de la préquelle, et le 6e en tout, ne déroge pas à la règle. Sans surprise, je suis incapable de résumer bêtement l'histoire, tant le film multiplie les personnages, les situations improbables, les récits parallèles contre-productifs et les références aux épisodes précédents que j'avais oubliés.
J'ai vu la fin du monde. La mort était partout. Je l'ai ressenti.
Jean, ce n'était qu'un rêve.
Comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il a piqué ça dans la Bible.
Ou c'est la Bible qui lui a piqué.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Mon Dieu, il peut tous nous contrôler. Je n'ai jamais ressenti autant de pouvoir.
Alors déjà, le peu de dialogues qu'on entend, ils sont quand même ridicules. Hein. Alors pour faire simple, alors disons que le tout premier mutant apparu depuis les origines de la civilisation, Apocalypse, de son nom, en fait c'est son prénom, hein, il doit s'appeler Apocalypse.
Comme c'est mignon.
Rien que ça, est considéré comme un dieu. Alors il possède des pouvoirs immenses et revient après un long sommeil mérité, un peu comme la Belle au bois dormant. En fait, pas vraiment, ça n'a rien à voir, j'ai juste ça pour meubler. Bref, il revient avec une idée d'une folle originalité, nettoyer l'humanité avec l'aide d'autres mutants, rallier à sa cause parce que parfois les humains sont méchants. Alors Magneto en a fait les frais depuis tout petit avec les nazis dans les précédents opus et ici avec les Polonais, plus bêtes que méchants puisqu'ils assassinent par erreur sa femme et sa fille. Alors heureusement, les gentils mutants dirigés par le bon professeur Xavier, toujours en fauteuil roulant, sont là pour combattre les forces du mal et remettre dans le droit chemin les quelques brebis mutantes égarées. Alors à force de fantasmer la destruction de la race humaine, je me dis que ça va vraiment arriver. Mais si des êtres haineux et belliqueux venus d'ailleurs ou d'ici-bas nous entendent, je vous en supplie, commencez par vous en prendre à Hollywood et leur blockbuster dégénéré de plus en plus vide, long et stupide. Alors éliminez les scénaristes qui torchent leur script avec des logiciels d'écriture, les concepteurs d'effets numériques d'une laideur apocalyptique, les réalisateurs qui se transforment en tâcherons pour des sommes conséquentes et surtout les producteurs qui s'en mettent plein les poches sur le dos des spectateurs qui doivent raquer 2 euros de plus à leur place. 3D oblige. Voilà. Ne croyez pas que je suis un anti-Marvel primaire, hein. Le naufrage artistique de ce X-Men prétentieux et idiot est d'autant plus surprenant que les deux précédents, signés respectivement par Matthew Vaughn et Bryan Singer, étaient réussis et nettement plus divertissants. Alors qu'est-il arrivé au réalisateur d'Usual Suspect, encore aux commandes de ce navet de luxe qui n'atteint pas les sommets inégalés de l'inénérable Batman versus Superman ? Mystère. Alors, les scènes d'action sont interminables et dénuées d'enjeux, la direction artistique est catastrophique, les personnages inexistants et la mise en scène d'une rare indigence. Indigence visible durant une première demi-heure, effarante de nullité sur le plan du montage. Il suffit de voir, alors pas le temps là d'expliquer, hein. Bref, passez votre chemin et allez vous ruer dans les salles, visionner aujourd'hui le nouveau film de Paul Verhoeven, Elle.
Voilà. Eh bien, merci Manu. Eh bien, on va maintenant passer de l'apocalypse au cinéma danois.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et donc, c'est Vincent maintenant qui nous parle de Men et Chicken, le nouveau film avec Mads Mikkelsen.
Le cinéma danois ne se résume pas à Lars von Trier ni à Carl Theodor Dreyer. Quand on y pense, le cinéma danois est riche. Si on ajoute l'outsider Thomas Vinterberg, qui avait rejoint le dogme le temps d'un film, on trouve aussi Nicolas Winding Refn, qui a vu depuis les lumières hollywoodiennes comme sa compatriote Susan Bier. Alors au-delà de ce quatuor, on en trouve bien d'autres, dont Anders Thomas Jensen, un réalisateur qui a fait très peu de films, mais qui avait marqué les esprits avec Adam's Apple il y a 10 ans déjà, où apparaissait le ténébreux Mads Mikkelsen, un film de jeunesse à l'humour féroce, qui confronte un skinhead, un pasteur, qui a pour habitude d'accueillir les brebis égarées. Alors le réalisateur nous fait le coup de la rédemption et du basculement.
Tu vas dégommer le pasteur ou quoi, c'est ça ?
Il a les fils qui se touchent. Il l'a eu dans l'os, enfant. Au lieu de se défendre, ça l'a rendu borné. Et maintenant, il tend l'autre joue.
Mais tu sors dans 11 semaines, alors fais gaffe. Nous, on t'attend, tu sais. S. Ben ne sait pas diriger la bande tout seul. On est bon à rien sans toi, Adam.
Je vais pas tuer ce crétin de pasteur tête de pioche.
Alors explique-moi, il y a un truc que je pige pas, là.
Tout ce que je veux, c'est ébranler sa foi, sa générosité.
Et la tarte aux poires dans tout ça, alors ? S. Ben dit que t'as parlé de préparer une tarte.
C'est une tarte aux pommes, ok ?
Ouais.
Et on s'en fout.
Au passage, on se réjouit de regarder les films en version originale. Voilà donc que 10 ans après ce petit succès, Anders Thomas Jensen revient avec Men and Chickens, oui, Hommes et Poulets, une autre comédie tout aussi féroce, et toujours avec l'acteur Mads Mikkelsen. Le pitch ressemble à beaucoup d'autres. À la mort de leur père, Elias et Gabriel découvrent qu'ils ont été adoptés et que leur père biologique, Evelio Thanatos, est un généticien qui travaille dans le plus grand secret sur une île très peu peuplée. Alors les deux frères, même s'ils ne s'entendent pas, vont faire le chemin ensemble et tenter de rencontrer leur père génétique. Une fois arrivés sur l'île, si les premiers autochtones se montrent avenants, il n'en va pas de même aux abords de la maison du père. Là-bas, on y trouve une fratrie pas très accueillante, vivant dans une grande maison au milieu d'animaux et dans l'odeur de fromage. À mi-chemin entre la comédie noire, le film fantastique et la fable sociale, Men and Chicken nous plonge dans un univers où la galerie de personnages joue à plein. Alors si on était aux États-Unis, on serait chez les rednecks, à se demander quel est le plus débile. De deux frères au début du film, au caractère dissemblable, on passe à 5 frères, autant dire qu'on ne s'ennuie pas. Alors en nous proposant sa galerie de personnages proche des frics, Anders Thomas Jensen interroge le déterminisme social car chaque frère a sa particularité et tous usent de la violence. Alors comme dans Adam's Apple, la violence n'est jamais prise au premier degré mais nourrit des scènes burlesques ou de comédie. Il faut dire que la violence dépend très étroitement de l'instinct de chacun de ses personnages. Alors au bout du film, arrivé à l'épilogue, on comprendra pourquoi chaque frère a telle ou telle particularité. Tout ce petit monde est très bien incarné, on a la 5 trognes dissemblables, un grand, des moustachus, un petit, un crâne dégarni. Là où ils se rejoignent, eh bien, c'est qu'ils ont tous un bec de lièvre. Le réalisateur a d'ailleurs été accusé de discrimination envers cette infirmité. Alors Men and Chicken amuse, questionne, sur le mode du « on ne choisit pas sa famille », la fable sociale se fait féroce. On donnerait bien 5 bobines de comédie française, oui, au moins ça, contre une seule de ce calibre.
Voilà, c'était donc Men and Chicken et c'était chroniqué par Vincent. On enchaîne maintenant avec Anne, c'est toujours Cinérama.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors ça y est, Cannes, c'est fini. La 69e édition s'est achevée ce dimanche 22 mai. On va tenter de revenir brièvement sur ce qui a émaillé le festival de l'ouverture jusqu'à la clôture, parce qu'on n'a pas du tout parlé, en fait. Hein, donc, mieux vaut tard que jamais. Alors, comme pour les Césars de cette année, eh bien, on avait fait le choix de copier nos amis américains afin d'offrir une cérémonie d'ouverture et de clôture moins soporifique que les années précédentes. Aux commandes donc un maître de cérémonie, Laurent Lafitte en l'occurrence, vraiment drôle, et c'est ça qui change surtout, des sketchs, de la musique, des prestations scéniques incroyables, bref, tout comme aux États-Unis, sauf que la différence, eh bien, c'est qu'en France, personne ne rit dans le public. Par exemple, lorsque Laurent Lafitte sort quelques vannes à Woody Allen, bah, bizarrement, personne ne se marre.
Merci, merci beaucoup d'être là, monsieur Woody Allen, merci beaucoup. « même si c'est quand même la moindre des choses. Ben, c'est vrai parce que vous risquez pas grand-chose, votre film est hors compétition. Donc le pire de ce qui pourrait vous arriver, c'est qu'en sortant, les gens disent « Oui, non, si, non c'est un bon Woody. Franchement, c'est un bon Woody. Mais bon, c'est pas... Ouais, mais en même temps, un film par an, on peut... Non, je suis pas d'accord avec toi. On peut faire un film par an et non, je suis pas d'accord, non. Oui, mais moi, depuis Manhattan... Oh non, t'es dur. Attends, Magic and the Moonlight, c'est... Voilà. Ça, c'est le pire qui puisse vous arriver. Voilà. Non, et puis ça fait plaisir que vous soyez en France parce que ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe. Alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux États-Unis.
Et bizarrement, personne ne rit. Bon, en même temps, c'est peut-être aussi qu'il a 80 ans, donc il n'a pas compris la blague, Woody Allen. Alors, pour fêter sa 69e année, 69 années érotiques, le Festival de Cannes s'est complètement lâché lors de sa cérémonie d'ouverture. C'est pour dire, Laurent Lafitte a même osé embrasser sur scène une femme plus âgée que lui, ce qui est quand même dégoûtant, Catherine Deneuve, chose qu'on ne voit jamais au cinéma, sinon ça devient un thème à part entière. Alors, pour en revenir au film quand même, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Cannes, ce n'est pas que des tétons qui s'échappent des robes sur le tapis rouge, c'est aussi une compétition de films. Et bien cette année, la compétition a été d'une originalité folle. Parmi les réalisateurs présents, nous avions entre autres Christian Mungiu et Jim Jarmusch pour la troisième fois à Cannes, le réalisateur philippin Briente Mendoza pour la quatrième fois à Cannes, les Dardennes en lice pour la septième fois et Ken Loach qui présentait un film pour la 18e fois. Alors Xavier Dolan, sinon parmi les petits genoux, repart eh bien, avec le grand prix du jury. Xavier Dolan, qui à l'instar de Jean-Pierre Léo, honoré lors de cette soirée d'ailleurs, est lui aussi né à Cannes. Une première fois avec J'ai tué ma mère, qui a signé son entrée dans le monde du cinéma, et une seconde lorsqu'il a remporté le prix du jury pour Mommy en 2014, prix qui lui a permis d'abandonner ses castings canadiens au profit d'une carrière internationale. Alors son prochain film met en scène Léa Seydoux et Nathalie Baye, et en allant chercher sa récompense, eh bien Xavier Dolan s'est même offert une petite leçon de psychanalyse sur scène, parce que Cannes, c'est aussi ça, c'est aussi de l'émotion.
Où qu'il soit, j'ai tenté au mieux d'extraire un film puis de raconter l'histoire et les émotions de personnages parfois méchants, parfois criards, mais surtout blessés, et qui vivent comme tant d'entre nous, comme tant de mères, de frères, de sœurs, dans la peur, dans le manque de confiance, dans l'incertitude d'être aimé. Tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait pour être aimé. Moi, en tout cas, oui. Pour être accepté.
Bon alors, Manu n'a absolument aucune compassion envers Xavier Dolan. Moi, ça me fait pleurer. Lui, alors toi, Manu, non, t'es pas du tout touché. Hein.
Ah, je trouve pas.
Donc, tu n'iras pas voir son prochain film.
Je le trouve ridicule. Non, je n'aime pas du tout, du tout.
Vraiment, cette xénophobie anti-canadienne, ouais, québécoise, ça ne passe pas dans Cinérama. Hein. Alors, moment d'émotion également, moment de spontanéité surtout. Hein, la caméra d'or revient à Ouda Benyaima pour son film Divine. On écoute alors Ouda Benyaima qui aura quand même balancé sur scène cette phrase qui fera date, je cite, « Tu as du clito à son producteur ». On écoute un bout de son discours.
En fait, j'arrête pas de dire, j'en ai rien à foutre de Cannes à mon producteur depuis le début. Quand j'étais en train de monter, je lui dis « Je m'en fous de Cannes, je fais pas un film pour Cannes ». Et aujourd'hui, bah, je suis contente d'être là parce que c'est aussi notre place à nous. Cannes nous appartient, Cannes est à nous aussi. Mille visages, on est là, quoi! On est là! C'est possible! Et que ça soit une femme qui nous ait remis le prix, quoi! C'est juste une tuerie, quoi! C'est une tuerie que ça soit une femme! Et pour que les choses, elles changent, il faut mettre beaucoup plus de gens, décisionnaires, que ce soit des femmes, beaucoup plus de femmes, même dans les sélectionneurs aujourd'hui. Toutes les sélections sont composées uniquement que de femmes! Des femmes!
Voilà, j'aurais dû vous prévenir de vous éloigner de votre poste de radio juste avant son intervention. Et finalement, eh bien, et comme souvent, le festival le plus luxueux de la planète choisit de consacrer un film qui parle de misère sociale, parce que la compassion et la solidarité, c'est important entre deux coupes de champagne. C'est donc Ken Loach qui remporte la Palme d'Or pour Moi, Daniel Black, un drame sur les dérives de l'administration d'Angleterre prolétarienne, produit par le même producteur que Dipan, d'ailleurs vainqueur de l'année passée. Ken Loach qui rentre ainsi dans le cercle très fermé des doubles Palmes d'Or, en même temps de Palme. C'est plus facile pour nager. Pardon, je suis désolée, il fallait que je la fasse, celle-là. Ken Loach qui nous a gratifié d'un beau discours sur les dangers du désespoir.
On est... Le cinéma est porteur de nombreuses traditions. L'une d'entre elles est de présenter un cinéma de protestation. Un cinéma qui met en avant le peuple contre les puissants. Et ce que j'espère, c'est que cette tradition se maintiendra.
Voilà un beau discours politique de la part de Ken Loach, même si il paraît que son film est loin d'être son meilleur. Et rien, malheureusement, durant cette 69e édition, pour les films qui semblaient plus singuliers ou dont les réalisateurs se font plus rares. Rien pour le Verhoeven, dont tu parleras la semaine prochaine, Manu. Un Verhoeven au casting français. Rien pour The Neon Demon, le nouveau Nicolas Winding-Refn, qui mélange univers sadique, des top modèles et hommages à Dario Argento, il me semble.
Et je reviendrai sur le Verhoeven, je voulais juste dire quelque chose sur Paul Verhoeven, qui est à Cannes pour la première fois de sa vie.
C'est vrai, c'est sa première sélection.
C'est la première sélection dans un grand festival autre que les Razzie Awards.
Ah oui. Oui, c'est vrai qu'il avait eu 13 nominations pour Showgirls.
Et il est venu chercher le prix en disant qu'il était très fier d'avoir eu le prix du plus mauvais film et du plus mauvais réalisateur. Et il a eu quand même le grand prix à Avoriaz avec Robocop en 88.
Oui, il n'y a rien eu non plus pour Alain Guiraudy, dont on avait éperdument aimé L'inconnu du lac, et rien pour le nouveau thriller érotique Mademoiselle de Park Chan-wook. Et ça, je sens que ça va être spécifiquement mon prochain coup de cœur. Je ne l'ai pas encore vu, mais je le sais. Je le sais, ça va être mon prochain coup de cœur issu de Cannes.
Bah, patiente.
Pourquoi il sort quand ?
Il ne sortira pas avant octobre, je crois, ou novembre.
Merci Manu de m'avoir plombé toute l'émission. Et donc, on va terminer ce point cannois avec un extrait du très beau medley joué lors de la cérémonie de clôture. Un medley qui reprend plusieurs thèmes très connus du 7e art dans les parapluies de Cherbourg et interprété par, entre autres, Imalouf et L.E.J. Et ça, on en veut vraiment chaque année. Manu, tu voulais encore ajouter quelque chose pour finir sur ce festival de Cannes ?
Non, c'était juste pour la Palme d'Or de Ken Loach. C'est toujours curieux de voir un festival, je ne vais pas dire de droite, mais un peu très très bourgeois, souvent primer des films de gauche, engagés. Et ce n'est pas la première fois et je trouve que c'est assez étonnant, comme si ils étaient un peu mal à l'aise avec
Oui, comme s'ils avaient un truc à se faire pardonner.
Voilà, c'est toujours quelque chose d'assez curieux. C'était tout.
Et bien en tout cas, on pourra se faire bientôt notre avis sur donc le dernier Ken Loach. Et justement, on reste sur Cannes, on va enchaîner avec The Money Monster. C'est Vincent qui nous chronique ce film qui était justement à Cannes. C'est Cinérama.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Antenne dans 5 minutes.
Tu l'as, la nouvelle version du script de l'intro ?
Non, on bosse toujours dessus. Tu braques la caméra sur moi et on y va au filet.
Le voilà, le magicien de Wall Street en personne.
Je suis Lee Gates, vous regardez Money Monster.
C'est qui là sur la caméra 2 ? Quelqu'un sait ?
Quatrième film de Jodie Foster en tant que réalisatrice, quatrième fois également que George Clooney joue avec Julia Roberts et première occasion pour l'actrice américaine de monter les marches à Cannes où Money Monster était présenté hors compétition. Un pur produit hollywoodien qui a failli ne jamais voir le jour, alors sans doute en raison de son sujet, car tout film à suspense qu'il est, Money Monster est une critique de la toute-puissance de la finance et des médias qui s'en lavent les mains. Alors Lee Gates est un présentateur influent, il parvient dans son émission consacrée à Wall Street à donner le pouls de la bourse, à deviner ou pas les tendances et flairer quelques bonnes affaires. Alors volontiers fanfaron, homme de spectacle plus que spécialiste, c'est un animateur de télévision et la première séquence où il apparaît ne trompe pas, puisqu'il discute au téléphone les fesses posées sur un WC. Alors la machine bien huilée de son spectacle télévisuel se grippe quand un spectateur surgit avec un pistolet dans le studio.
Coupe le feu.
Et vous là-dedans, rebranchez les caméras.
Rebranche les caméras. Rebranche-les.
Remets en diff.
Vas-y, prends-le. Enfile-le. Si mon pouce lâche ce bouton, je vous préviens, on explose.
il exige des explications sur la perte subie de 800 millions de dollars de la société Ibis, sur laquelle il fallait tout miser quelques jours plus tôt. La réponse officielle a été qu'il y a eu un couac dans l'algorithme. Mais Kyle, le spectateur, n'est ni convaincu par cette explication, ni rassuré, car ça ne lui rendra jamais les 60 000 dollars qu'il a perdus en achetant les actions qui, maintenant, ne valent plus rien. Alors si Gates lui répond avec son cynisme quelque peu léger qu'on peut tout perdre à la bourse et que ça n'est pas une science exacte, la ceinture d'explosifs que le spectateur furieux lui demande de porter va le faire changer d'attitude. Alors heureusement, et c'est une belle trouvaille du scénario, l'animateur va être guidé par la réalisatrice de l'émission, Julia Roberts, via la fameuse oreillette, chose que le preneur d'otage semble ignorer.
Ceux qui peuvent sortir, sortez, et tout de suite. Ne croisez pas son regard, sortez, c'est tout. Lee, reste calme, je suis là.
Money Monster possède des qualités. Alors on remarque une gestion du suspense dans la pure tradition hollywoodienne. On a là un preneur d'otages, une ceinture d'explosifs, des policiers prêts à intervenir, des moments de crise et des dénouements. Alors durant l'heure 40 que dure le film, il y a peu de répit. Ils n'ont pas envie de perdre les spectateurs en route. Le scénario pose qu'il s'agit d'une émission de télé réalisée en direct, ce qui impose également que le film se passe en temps réel. Julia Roberts devient en quelque sorte la réalisatrice du film. Elle temporise, accélère au gré des occasions et sur le fond, c'est aussi elle qui se met à transformer l'émission sur les opportunités de boursicoter en enquête sur les mœurs de Wall Street. Car le seul moyen de sauver l'animateur qui a toujours sa ceinture d'explosifs, c'est de trouver une réponse qui convienne au preneur d'otages sur la perte de ses 60 000 euros.
Avant tout, laissez-moi vous préciser, et je parle au nom de toute l'équipe chez Ibis, que nous sommes prêts à tout faire pour que vous posiez votre arme. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il vient tirer sur votre moniteur dans le studio.
Vous devez comprendre que la situation est très délicate.
Me parlez pas de situation délicate!
Il faut vous réveiller et faire marcher votre tête.
Parce que pour moi, cette histoire, elle tient pas debout non plus.
Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire?
Je veux dire que vous feriez bien de poser les vraies questions et de trouver les vraies réponses et de vous manier le cul. Lee, tu dois arrêter de lui parler comme ça. Ne lui raconte pas d'histoire.
C'est pas du tout ce qu'il veut entendre pour le moment.
Laisse-moi te trouver des réponses.
Il faut gagner un peu de temps, d'accord?
Alors, il est explicitement fait mention du fait que personne dans l'émission ne fait plus de journalisme ni d'enquête. L'information est à plusieurs reprises ridiculisée, mais comme il s'agit d'une question de vie ou de mort, l'émission va se transformer en bravoure journalistique. La mise en scène insiste sur la responsabilité des médias. Les jingles insupportables au début du film sont cette fois-ci les vecteurs d'une information salvatrice. Et on poursuit le questionnement sur la responsabilité en soulignant la frontière entre ce qui est bien et légal. Un des enjeux du preneur d'otages est de faire dire au patron qui a englouti 800 millions de dollars que c'est mal, et ce, devant des millions d'Américains qui ont des actions. Le propos n'est pas de mettre en cause la bourse, mais son utilisation frauduleuse. Alors il vaut mieux regarder Money Monster comme un thriller habile plutôt que comme un film critique. Les ficelles sont ici grossières, mais assumées, et rien à dire sur les acteurs.
Moi, j'essaie de le sauver. Vous, vous essayez de lui tirer dessus.
Je sais très bien comment tout ça finira.
Suivez l'argent, vous trouverez l'escroc.
Dépêchez-vous, je suis assise à 20 mètres d'une bombe.
Voilà, Money Monster, c'était chroniqué par Vincent et c'est sorti le 18 mai dans toutes les salles. On enchaîne maintenant avec Boulevard, c'est toujours Cinérama.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Nolan est un gentil sexagénaire en fin de carrière dans une banque qui possède une vie tout à fait banale. Lui et sa femme s'aiment, mais ils font chambre à part. Il visite dès qu'il le peut son père, sur le point de mourir. Il répète chaque jour les mêmes gestes à son travail. Bref, sa vie s'écoule de façon morne et ennuyeuse. Un soir, en longeant un boulevard, il heurte accidentellement un jeune homme, Léo, qui fait le trottoir. Il le garde avec lui pendant une heure et sa vie prend alors un tournant décisif, puisque la rencontre avec Léo va lui permettre de se rendre compte qu'il refoulait son homosexualité durant toutes ces années. Est-il trop tard pour commencer à vivre ? C'est un peu l'enjeu du film. Le dernier film de Robin Williams avant que l'acteur ne se suicide, réalisé en 2014 mais qui ne sort que maintenant sur nos écrans. C'est d'ailleurs aussi le film qui signait son retour au cinéma dans un rôle dramatique. Et c'est probablement, je pense, alors j'ai pas vu tous ses rôles, mais je pense que c'est l'un des meilleurs rôles de sa carrière, du moins de la fin de sa carrière, parce que c'est quand même une performance assez remarquable. Et c'est même ce qu'il y a de plus intéressant dans le film, sa performance. Alors le titre Boulevard fait naturellement écho au célèbre Boulevard du Crépuscule, sauf qu'ici, en lieu et place du glamour hollywoodien, il n'est question que de misère sociale qui rencontre la misère affective, chacun essayant d'y trouver son compte. Le film ne donne que peu d'espoir quant à cette relation qui n'en sera jamais une, l'un ne sachant rien offrir d'autre que des relations tarifées, tandis que l'autre croit voir en lui la possibilité d'une liberté nouvelle. Alors c'est pas du tout un feel-good movie, hein, c'est même très très glauque, surtout lorsque l'on sait a posteriori, que l'acteur principal allait se suicider juste après le tournage. Boulevard, c'est même assez déprimant. Ça n'en reste pas moins un joli film modeste qui fait aussi un constat très amer sur notre société et sur le peu de place laissée finalement à la liberté et aux sentiments. Boulevard, c'est sorti la semaine du 18 mai sur vos écrans et c'est donc le dernier film de Robin Williams.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on enchaîne sur une sortie DVD, Contro Natura. Longtemps invisible en France, Contro Natura sort enfin donc en DVD chez Artus. Hélas, il faudra se contenter d'une copie décevante ne mettant pas en valeur la colorimétrie originelle. Les couleurs un peu délavées ternissent cette coproduction étrange à la croisée des genres et des modes. Alors en 69, le cinéma gothique s'essouffle surtout en Italie où les derniers représentants du genre ne comptent pas parmi les plus grandes réussites. Le giallo n'a pas encore explosé malgré le succès de Tifam pour l'assassin, mais un courant commence à naître, le thriller à tiroir inspiré du classique de Clouzot, Les Diaboliques. Alors tourné en Allemagne avec en partie des comédiens locaux, alors Joachim Fuchsberger, Helga Anders, Marianne Koch, Contro Natura est un mix hybride de gothique et de giallo auquel il faut rajouter un soupçon de crimi. Les crimis, c'est les romans policiers allemands d'Edgar Wallace. Alors, vieux routier ayant abordé une multitude de genres, Antonio Margheriti se livre à un exercice de style assez osé en termes graphiques pour l'époque. Année 69 oblige, Contro Natura se fraye un chemin plutôt étrange du côté de l'érotisme saphique, bousculant les bonnes vieilles mœurs tout en s'abritant confortablement derrière un discours puritain. Mais le principal est de pouvoir se rincer l'œil en amorçant une morale de surface typique de production transalpine de l'époque, beaucoup plus transgressive que les apparences ne laissent supposer. Alors l'action se déroule dans les années 20 en Grande-Bretagne. Un orage violent oblige un groupe d'amis de se réfugier suite à une panne de voiture dans une étrange demeure, la seule qui se trouve à proximité. Alors cette dernière est tenue par des prolétaires, un certain Uriad vivant avec sa mère. Une séance de spiritisme va révéler un secret inavouable, unissant tous les personnages présents, ayant tous un lien et une part de culpabilité dans les événements passés. Le premier quart d'heure, assez étrange, embarque le spectateur dans un récit éclaté, présentant une multitude de personnages aux motivations floues. Alors, Contro Natura ne s'inscrit pas dans un genre déterminé, l'histoire est assez confuse, les personnages d'emblée ambigus et l'atmosphère trouble. D'autant que Margheriti, de manière assez habile, laisse entrevoir un autre film durant ce début volontairement laborieux et bavard, pour mieux basculer vers un autre récit. En ce sens, l'auteur de La Sorcière Sanglante a bien retenu la leçon en termes de construction de psychose. Alors une fois prisonniers dans le manoir, les personnages vont peu à peu révéler leur nature respective via des flashbacks orchestrant une intrigue complexe en apparence mais qui progressivement prend forme jusqu'à ce qu'éclate la vérité, véritable punition, non pas divine, mais des pauvres prenant leur revanche sur une bourgeoisie peu reluisante. Alors le thème de la culpabilité d'individus se retrouvant dans un lieu anxiogène, évoque étrangement les films à sketch britanniques marqués par le sceau d'une morale bien pensante. Margheriti ne choisit pas l'architecture du film à sketch, mais un récit gigogne à la manière de Lisa et le diable de Mario Bava, où chaque personnage possède sa part de responsabilité dans une mécanique où machination et hasard se mêlent telle une danse macabre, pour reprendre un des titres célèbres d'un film de Margheriti. Alors entre la fable onirique et le thriller gothique, hein, Contro Natura, œuvre singulière ponctuée d'un érotisme troublant et de meurtres violents, affiche un savoir-faire indéniable en termes de mise en scène. Les mouvements de caméra ingénieux sont dynamisés par un montage nerveux et intelligent, raccordant de façon fluide passé et présent. Alors l'atmosphère insolite domine une œuvre intéressante qui se clôt par une séquence très spectaculaire, rappelant le goût immodéré du réalisateur Margheriti pour les petites maquettes, surtout par chance, si un événement inattendu les fait exploser. Voilà, c'est la marque de fabrique de ce réalisateur qui signe là un bon film gothique. Il ne peut pas s'empêcher de mettre des maquettes.
Eh bien, merci voilà. Manu. Donc, c'est trouvable en DVD.
En DVD chez Artus Film.
Merci Manu, et c'est ce qui clôt cette émission.
c'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Alors, je crois qu'on l'a compris, la semaine prochaine, on va parler de Elle, de Verhoeven.
Oui, ce sera le seul film que je vais aller voir cette semaine, en plus.
C'est le seul film que l'on verra tous à travers une émission spéciale, Elle. La semaine prochaine, nous serons réunis à trois avec Vincent. Bien passé une bonne semaine, allez au cinéma. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.